Bonjour, je m'appelle Marion Botorel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment un scandale révélé par Le Monde a posé les bases de la protection de nos données personnelles? Nous revenons sur une affaire dévoilée par notre journal il y a 50 ans, le scandale Safari. Cette affaire a poussé la France à prendre en compte le risque de fichage de ses citoyens en créant un arsenal juridique et des outils toujours en vigueur comme la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Alors, qu'est-ce qu'a révélé exactement Le Monde en 1974? Pourquoi ces révélations ont-elles eu autant de conséquences? Et comment les menaces qui pèsent sur notre vie privée ont-elles évolué ces 50 dernières années? Journaliste au service Pixel du Monde, Damien Leloup a retracé l'histoire de Safari. Il nous raconte. Projet Safari, l'histoire du scandale à l'origine de la création de la CNIL. Réalisation, Amandine Robillard. « 23 juillet 1972, journal de 20h de l'ORTF.
Toute personne née en France depuis 1891, qu'elle soit française ou étrangère, est désormais un numéro sur l'une de ses bandes magnétiques. Cette opération administrative, qui porte le nom de « Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus », nom de code « Safari », sera mise en route à partir du 1er janvier prochain. »
Les caméras de l'ORTF filment en noir et blanc d'énormes machines aux multiples boutons qui clignotent par intermittence. Dans ce reportage, le journaliste interroge Jacques Desaby, le responsable du projet Safari à l'INSEE, l'Institut National des Statistiques. En cravate, assis derrière son bureau et ses fiches bien à plat devant lui, Jacques Desaby peine à rassurer face à la technicité du projet.
Un certain nombre d'hommes, et notamment d'hommes politiques, ont exprimé la crainte que ces fichiers ne tombent entre de mauvaises mains. Est-ce que, avec votre système, ça peut être évité?
Notre répertoire d'identité ne contient de toute manière que le nom, les prénoms, la date et lieu de naissance, et la date et lieu de décès. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une information qui ait un caractère particulièrement indiscret.
Mais à ce moment-là, on ne parle pas encore de Safari comme d'un scandale. Et rien ne laisse présager que les sujets soulevés resteront d'actualité pendant les 50 prochaines années. Salut Damien.
Salut Marion.
Damien, on vient d'entendre une archive de 1972 qui présente donc ce projet Safari dont on va étudier l'héritage jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste ce projet Safari à l'époque ?
Déjà, cette archive qu'on vient d'écouter et qui est très dans son époque, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle est diffusée 5 ans avant l'arrivée du Minitel en France. Les ordinateurs, c'est pas comme aujourd'hui des choses que tout le monde a chez soi. On est vraiment dans la France qui découvre l'informatique et même pas encore l'informatique grand public. Et donc, dans ce contexte, Safari, c'est un projet de numéro d'identification unique. Chaque Française et chaque Français aurait un numéro Safari. Ça ressemble globalement au numéro de sécurité sociale. Et le but de ce projet et de ce numéro, c'est de faciliter l'informatisation et les recoupements entre différents fichiers de l'État. C'est un projet qui est, on va dire, scientifique dans sa première itération, puisque c'est l'INSEE qui le porte pour pouvoir créer davantage de statistiques et des statistiques plus précises pour aider le gouvernement, les administrations à prendre de meilleures décisions et à mieux gérer la politique de l'État. Mais c'est là que les choses vont se compliquer. À partir du moment où il y a un numéro unique, c'est aussi beaucoup plus facile de croiser des bases de données et de savoir que le numéro qui correspond à Marion Botorel, en fait, il correspond à tel permis de conduire, à telle tranche de revenus, à telle année où elle a passé le bac. Voilà, d'avoir tout un tas d'informations à partir d'une même personne.
Ce projet Safari, donc pour système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, ne fait alors pas grand bruit, Damien, jusqu'à la publication 2 ans plus tard d'un article dans le journal Le Monde, plus précisément dans l'édition du 21 mars 1974. Alors qu'est-ce que révèle Le Monde à ce moment-là sur Safari ?
La grande révélation de cet article, c'est pas tellement l'existence du système Safari, qui est public, hein, comme on l'a vu, c'est que le ministère de l'Intérieur s'intéresse de près à l'utilisation de Safari, et que donc il y a une cellule qui a été mise en place au ministère de l'Intérieur pour informatiser des fichiers, notamment de police. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui fait immédiatement réagir l'opinion publique.
De telles visées comportent un danger qui saute aux yeux et que M. Adolphe Touffet, procureur général de la Cour de cassation, avait parfaitement défini le 9 avril 1973 devant l'Académie des sciences morales et politiques en disant « La dynamique du système qui tend à la centralisation des fichiers risque de porter gravement atteinte aux libertés et même à l'équilibre des pouvoirs politiques. »
Et cet article fait d'autant plus réagir Damien qu'il est titré de manière un peu provocatrice « Safari ou la chasse aux Français ».
Ce titre, il évoque d'une certaine manière le passé du fichage en France et des numéros d'identification qui sont encore à l'époque très liés à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation, puisqu'il y a eu des utilisations de numéros d'identification uniques au sein de l'armée française, mais aussi dans le cadre de la déportation des Juifs de France et de l'identification des Juifs de France. Donc ça fait évidemment appel à un imaginaire très totalitaire et très inquiétant. Voilà, en 1974, la Seconde Guerre mondiale n'est pas si loin, et ça c'est quelque chose qui est très évocateur pour la plupart des lecteurs et des lectrices.
Et c'est donc dans ce contexte que tu décris, Damien, que cet article du Monde va provoquer une très vive réaction dans l'opinion publique.
Effectivement, c'est une information qui est reprise dans l'ensemble de la presse française, qui est très commentée et qui provoque un début de scandale politique. Alors, il faut se replacer aussi encore une fois un peu dans le contexte de l'époque. Outre le fait qu'on est assez peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, on est aussi dans un contexte d'affrontement Est-Ouest. On sait que de l'autre côté du rideau de fer, il y a un fichage à grande échelle de la population qui est mis en place en Russie, en Allemagne de l'Est. C'est quelque chose dont les Français ont assez bien conscience. Et puis, c'est aussi un contexte dans lequel, en France même, il y a un certain nombre de barbouzeries ou d'abus de pouvoir de la part des services de sécurité qui viennent de faire la une. Et notamment l'affaire des micros du Canard enchaîné, qui se déroule 4 mois avant le début de ce scandale. En très résumé, c'est un scandale dans lequel un journaliste du Canard enchaîné découvre quasiment par accident des agents de la DST française en train de poser des micros au sein de la rédaction de l'hebdomadaire satirique.
Et Damien, est-ce que cette émotion dans les médias et l'opinion publique, elle n'est pas aussi liée à une certaine méfiance vis-à-vis de l'informatique ? Tu nous disais tout à l'heure qu'on a une époque où le Minitel n'existe même pas encore.
Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y a pas d'ordinateur personnel, il y a encore moins de téléphone ou d'Internet. Donc l'ordinateur, c'est une grande machine qui coûte extrêmement cher et dont on ne comprend pas très bien comment elle fonctionne et à quoi elle peut servir. Et qui, par ailleurs, en général, en France, est plutôt située au siège d'une entreprise du nucléaire dans une base de l'armée française ou, à quelques exceptions près, dans la haute fonction utilisée par la haute fonction publique. Pour la française ou le français moyen, c'est un truc un peu mystérieux, un peu inquiétant, dont on n'a pas tout à fait conscience de ce qu'elle peut faire.
Et c'est pour ça que tu parles de choc de culture dans ton article. C'est en tout cas le terme qu'utilise Claude Poulain, que tu as interrogé, parce qu'il était informaticien à l'INSEE à l'époque de Safari.
Oui, ce que Claude Poulain m'a raconté, c'est que globalement, le projet Safari et les projets d'informatisation de l'administration sont des projets qui sont portés par des polytechniciens, donc des ingénieurs, des gens qui ont le sens du service public, de l'État, et qui se posent finalement assez peu de questions, parce que pour eux, voilà, ils ont un outil très performant qui va permettre vraiment d'améliorer l'efficacité de l'État français. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, il faut le mettre en place. Et donc, ils lancent Safari et d'autres projets, sans forcément toujours réaliser la manière dont ces projets vont être perçus. Et l'opinion publique, elle ne voit pas forcément les choses de la même manière. Et par ailleurs, les politiques et les juristes non plus. Voilà, il y a quand même des questions de protection de la vie privée, de droit d'accès à ces informations, de protection du citoyen et puis plus tard du consommateur qui se posent. Et ces questions, elles n'ont pas toujours été pensées en amont, et notamment dans le cadre de Safari.
Et ce qui va également caractériser ce scandale Safari, Damien, c'est la vitesse à laquelle le pouvoir politique va rétro-pédaler sur ce projet. Moins de 8 jours après la publication de l'article du Monde, le 29 mars 1974, le Premier ministre de l'époque, il va y mettre fin à Safari.
Tout à fait, Pierre Messmer décide de mettre fin à ce projet, l'annonce très publiquement, pour essayer d'en tirer une solution un peu d'avenir, on va dire. Et donc, il décide la mise en place d'un comité d'experts qui a pour charge de préparer un éventuel projet de loi par la suite.
« Donc en fait, le problème Safari est rapidement réglé avec l'abandon du projet, mais ce scandale attire l'attention du gouvernement sur ce nouveau champ du droit. Une mission d'experts est donc mise en place. Et quelles sont ses conclusions, Damien ?
Alors, c'est une commission qui est composée à la fois d'experts de l'informatique et de juristes et d'experts du droit et des libertés individuelles. On est assez loin de la Startup Nation, si vous regardez un peu le profil des gens qui la composent. C'est quand même des gens assez âgés, mais du coup aussi très expérimentés. Et ils aboutissent à une série de recommandations qui sont, je pense qu'on peut dire, très équilibrées et par certains côtés assez visionnaires pour l'époque. Voilà, c'est globalement avec une philosophie qui dit que il faut pouvoir développer la technologie et l'informatique en France, mais que les libertés individuelles doivent toujours primer et qu'il faut donc mettre en place un certain nombre de garde-fous pour s'assurer que le progrès technique ne se fait pas au détriment des libertés publiques.
Et Damien, cette série de recommandations va être reprise dans un projet de loi, la loi Informatique et Liberté. Je te propose d'écouter ce qu'en dit un reportage du JT de TF1 en 1976.
Principale disposition de ce projet, la création d'une commission nationale informatique et liberté, une commission de 12 membres, 6 magistrats et hauts fonctionnaires, et 6 spécialistes des ordinateurs. Le rôle de ces 12 hommes, réprimer les abus, être en quelque sorte les garde-fous de cette nouvelle Bastille que constituent les quelques 200 ordinateurs utilisés par l'État.
Cette loi est finalement votée en 1978. Alors Damien, quels sont ses grands principes si on veut synthétiser un peu ?
Le principe fondamental, qui est un principe tiré de la Constitution française, c'est que la vie privée, c'est un droit fondamental pour tout citoyen. Et que face aux risques que peut faire peser l'informatique sur ce droit fondamental, il faut mettre en place un certain nombre de garde-fous. Donc typiquement, on encadre très strictement le traitement informatique de données personnelles, avec des protections encore plus importantes pour les données qui sont jugées les plus sensibles et les plus attentatoires à la vie privée. On interdit par défaut la collecte d'un certain nombre d'informations. Et pour s'assurer que l'esprit et la lettre du texte sont respectés, il y a donc cet organisme qui est la CNIL, qui est chargé d'être en gros le gendarme de la vie privée en France.
Ok, alors arrêtons-nous un instant, si tu veux bien, sur cette CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donc, qui existe toujours aujourd'hui. Quelles sont ses missions ?
La CNIL, c'est une autorité administrative indépendante qui est chargée d'abord de se prononcer sur des projets de loi ou des créations de nouvelles bases de données publiques pour dire si oui ou non elles sont en conformité avec la loi. Et puis, c'est aussi une instance qui a des pouvoirs de contrôle et de sanction, donc qui peut procéder à des vérifications aussi bien auprès d'administrations que d'entreprises privées pour vérifier qu'elles respectent bien la loi. Et si ça n'est pas le cas, elles peuvent les sanctionner avec des amendes dont les montants ont évolué dans le temps et qui dépendent des manquements, mais qui peuvent attendre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions d'euros.
Et est-ce que tu as en tête une de ces décisions qui aurait fait date, par exemple ?
Un des dossiers les plus marquants, je pense, et les plus symboliques sur lesquels la CNIL se penche très vite dès les années 80, c'est le cas d'un fichier qui regroupe les personnes séropositives. Parce que c'est vraiment ce type de débat pour lesquels la CNIL a été créée. Parce que d'un côté, on a des médecins qui disent « nous avons besoin de pouvoir faire un suivi de ces patients pour vérifier l'efficacité des traitements, voir l'évolution de la maladie et permettre de mieux contrôler l'épidémie qui, à l'époque, fait des ravages en France ». Comme partout ailleurs dans le monde. Et de l'autre côté, il y a une question majeure de protection de la vie privée, puisque à l'époque, encore bien plus qu'aujourd'hui, le fait d'être séropositif, c'était un tabou gigantesque et le fait de le savoir était vraiment une information d'une confidentialité extrême. Et donc, pour réussir à concilier ces deux impératifs, protection de la vie privée et nécessité pour le plus grand bien, un système va être mis en place de double anonymat très complexe pour l'époque et la CNIL va se pencher dessus et le valider. Donc ça, c'est le genre de débat sur lequel la CNIL est sollicitée et dans ces dernières années, elle a été sollicitée sur des dizaines ou des centaines de projets de loi, de sujets, puisque aujourd'hui, avec Internet, une énorme partie de l'activité législative a une dimension données personnelles, informatique, etc.
Ok, donc si je comprends bien, grâce quelque part au scandale Safari, la France s'est dotée assez tôt d'un cadre légal qui est toujours valable aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que notre pays a quelque part fait figure de pionnier. Est-ce que d'autres États s'en sont inspirés?
Alors oui et non. Au moment où la CNIL est créée, où la loi informatique et liberté est votée, il y a déjà des choses qui existent en Europe, notamment en Suède, qui a été assez pionnière aussi dans le domaine de la protection de données personnelles. Mais c'est vrai que le texte français y fait date. D'abord parce qu'il est très complet, il a une ampleur assez importante et que c'est l'un des tout premiers quand même à être adopté en Europe. Donc par la suite, quand d'autres pays d'Europe de l'Ouest et puis après la chute du mur d'Europe de l'Est vont à leur tour adopter des législations similaires, ils vont évidemment regarder ce qui s'est fait ailleurs et notamment en France et s'en inspirer en bonne partie. Après, pour contrebalancer un peu ça, on est aussi à une époque où ces sujets sont dans l'air du temps dans tous les pays. Aux États-Unis, il y a déjà eu un premier texte, le Privacy Act en 1970, mais qui recouvre pas exactement la même chose et qui va moins loin sur certains aspects que la législation française. Donc voilà, la France invente pas le droit à la vie privée et l'encadrement des bases de données, mais elle est l'un des premiers pays à le faire et elle va, par certains côtés, plus loin que tout ce qui existait à l'époque.
Donc, ce que tu nous dis, c'est que depuis cette époque-là, tous les pays se sont en quelque sorte dotés de leur propre CNIL.
Tout à fait. Tous les pays de l'Union européenne, en tout cas, ont l'équivalent de la CNIL. D'ailleurs, ces différents organismes se parlent entre eux. Ils ont un format dans lequel les 27 CNIL européennes se réunissent pour discuter de sujets communs. Après, il y a une nuance qu'il faut apporter, c'est qu'il y a CNIL et CNIL, si on peut dire. C'est-à-dire que tous les régulateurs de la vie privée en Europe n'ont pas ni les mêmes textes de loi exactement, ni les mêmes moyens, ni parfois la même volonté politique pour agir. Les questions d'application de la loi restent un. Je vais te donner un exemple très concret. La CNIL irlandaise, l'équivalent irlandais de la CNIL, est responsable en Europe pour tous les sièges des très grandes entreprises américaines qui, en général, sont installées en Irlande pour leur siège européen. Donc, la CNIL de ce tout petit pays doit traiter des dossiers gigantesques qui concernent des entreprises multimilliardaires qui, par ailleurs, rapportent énormément d'argent à l'économie du pays. Donc, elle est réputée en Europe pour être beaucoup plus coulante, mettre un peu moins d'empressement à lancer des procédures que ses homologues, et notamment que les CNIL allemandes et françaises, qui sont très largement perçues par les grandes entreprises américaines comme les plus strictes, les plus pointilleuses et celles qui lancent le plus de procédures contre elles.
Ok Damien, alors maintenant on est en 2024, 50 ans après le scandale Safari. Est-ce que cet arsenal juridique qu'on vient de décrire et qui en est hérité, il te semble aujourd'hui toujours à la hauteur ?
La loi de 1978, Informatique et Liberté, c'est une loi qui reste étonnamment assez solide, surtout pour une loi adoptée avant l'arrivée de l'informatique grand public et d'Internet. Alors évidemment, elle a été modifiée par des textes de loi successifs par certains côtés, elle a peut-être pas assez été modernisée, mais l'essentiel du texte reste encore aujourd'hui en place et semble plutôt bien fonctionner. Il y a tout un tas de choses qui sont interdites depuis 1978 qui le restent et pour des bonnes raisons, notamment sur l'accès aux données personnelles par des enquêteurs de police, par exemple, ou sur la création de fichiers, puis aussi des choses liées au secteur privé. Tout ça, ça reste assez solide et assez bien en place. La question qui se pose plus et surtout celle des moyens, en fait, notamment des moyens dédiés à la CNIL et aussi aux services d'enquête. Parce que, comme tu t'en doutes, la quantité de données produites et générées par chaque Français aujourd'hui est infiniment supérieure à ce qu'elle était en 1974. Chaque jour, avec nos téléphones, on produit des centaines de points de données différents. Et donc, ça nécessite plus de moyens pour contrôler l'usage qui en est fait, procéder à des vérifications, traiter les plaintes. Et donc, au fil des années, le nombre de personnes travaillant pour la CNIL a beaucoup augmenté. Mais si tu en discutes, par exemple, avec des associations de défense de la vie privée, elles te diront que c'est encore très insuffisant eu égard au nombre de chantiers qui sont ouverts et au nombre de procédures qu'il faudrait lancer.
Oui, d'autant qu'on l'a déjà dit, Damien, la CNIL française, comme d'autres CNIL, aujourd'hui, elle se penche beaucoup sur les grandes entreprises, par exemple sur les GAFAM.
Tout à fait, sur les GAFAM, les sociétés de publicité en ligne, donc des très grands groupes, souvent américains ou étrangers, qui collectent énormément d'informations personnelles. Et donc une grosse partie de son travail, c'est de s'assurer que cette collecte se fait dans le respect des lois françaises et européennes, et le cas échéant, d'imposer des amendes quand elle constate qu'il y a des manquements. Mais ça, c'est la façade la plus connue, entre guillemets, de l'activité de la CNIL, en tout cas celle qui est connue du grand public. Elle procède aussi à des contrôles ou à des vérifications pour des PME françaises, des projets d'installation de vidéosurveillance. Voilà, elle a une activité qui est très dominée par ces grandes entreprises du numérique, mais qui va bien au-delà.
Mais est-ce que ça veut dire, Damien, si on repense à notre point de départ, donc le projet Safari, que l'État n'est plus aujourd'hui la principale menace en termes de fichage aux yeux de la CNIL ?
Alors non, mais ça veut dire que le volume de dossiers à traiter vient plutôt aujourd'hui majoritairement du secteur privé. La CNIL continue d'être saisie et de se prononcer sur les nouveaux projets de création de fichiers administratifs et de fichiers de l'État. Alors, il y en a eu un peu moins ces dernières années, mais il y a quand même eu toute une série de créations de nouveaux fichiers dans les années 90, notamment et au début des années 2000, fichiers de police, fichiers de renseignement, fichiers administratifs auxquels des enquêteurs peuvent accéder. Donc ça reste quand même dans l'ADN de la CNIL, cette mission de contrôle des fichiers de l'État.
Oui, et c'est notamment ce que déplorait dès 2006 le président de la CNIL, comme on l'entend dans cette archive du journal de 13h de France 2, présentée à l'époque par Élise Lucet. Je te propose de l'écouter.
J'imagine pas facile pour vous de surveiller tous les systèmes de surveillance.
Oui, non, mais c'est impossible. L'objectif, c'est pas ça, c'est d'essayer de fixer des principes, d'application et surtout de susciter un réflexe d'autovigilance chez nos concitoyens. S'ils ne se prennent pas en charge eux-mêmes, ce n'est pas l'actif qui fera tout le travail.
Est-ce que cette alerte reste aujourd'hui d'actualité, Damien ?
Alors oui et non, je pense qu'elle reste d'actualité, mais elle est aussi un peu trompeuse parce que toi comme moi, aujourd'hui, si on veut pouvoir retracer ce qui advient de nos données personnelles en ligne, on n'a pas les moyens ni techniques, ni matériels, ni intellectuels de le faire. C'est devenu tellement compliqué et tellement complexe à la fois du point de vue informatique et du point de vue légal pour ce qui concerne les fichiers étatiques français, qu'on a besoin effectivement d'une autorité administrative indépendante qui, elle, peut aller toquer à la porte d'une entreprise, d'une administration, dire « vous devez nous donner accès à tel ou tel type d'information » et qui peut initier des poursuites. Il y a une limite à ce qu'on peut faire en tant qu'individu ou en tant que citoyen.
Et est-ce que ça veut dire, selon toi, qu'un scandale comme Safari ne soulèverait pas aujourd'hui d'émotion dans l'opinion publique ?
C'est compliqué à dire parce que déjà, quand on regarde avec 50 ans de recul, c'est vrai que c'est un petit scandale Safari en termes de volume de données concernées et d'informations par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui où l'État détient infiniment plus d'informations sur tous les citoyens qu'à l'époque. Par contre, on voit assez bien que jusqu'à il y a une quinzaine d'années environ, la question des fichiers de police notamment, c'était quand même quelque chose d'assez, de toujours très sensible dans l'opinion publique. Mais depuis globalement 2015 et la vague d'attentats qui ont touché la France, face à au retour d'une menace terroriste importante, il y a eu une espèce de revirement dans l'opinion publique où finalement la protection de la vie privée passait un peu au second plan par rapport à la protection contre la menace terroriste. Je pense qu'aujourd'hui, un nouveau scandale de type Safari ne provoquerait pas nécessairement les mêmes réactions, même si, quand le scandale est gros, on voit quand même que ça continue de préoccuper beaucoup les Français, et à raison, je pense. On l'a vu notamment il y a une dizaine d'années, au moment des révélations d'Edward Snowden, quand on se rend compte que l'essentiel des données qui, aujourd'hui, forment notre vie numérique et disent énormément de choses sur nous, nos opinions, notre orientation sexuelle, ce qu'on pense, ce qu'on mange, qu'on consomme, avec qui on vit, où on part en vacances, toutes ces informations. En fait, les gens sont très attachés à la protection de ces informations et de leur vie privée.
Merci Damien.
Merci.
Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Vous y découvrirez notre offre spécialement faite pour les auditeurs et les auditrices de l'Heure du Monde. Merci de votre fidélité et à bientôt.